Le rayon BD, la bande dessinée entre au Collège de France.
Je crois que la bande dessinée suit de très près l'évolution de la civilisation. Et je crois que c'est à ce point de vue-là qu'elle intéresse plus particulièrement à la fois les historiens et les sociologues.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture. Une émission qui a commencé aujourd'hui avec la voix d'un historien de l'art, membre de l'Académie française, Marcel Brion, qui, au milieu des années 70, faisait encore figure d'exception en prenant la bande dessinée véritablement au sérieux, même si, comme on l'a entendu, les historiens et les sociologues commençaient à s'y intéresser. 50 ans plus tard, le 9e art n'en est plus à conquérir sa légitimité. Il est enseigné à l'université, les plus grands musées lui consacrent des expositions, les ouvrages savants se comptent par dizaines, les grands auteurs sont décorés, mais il y a tout de même encore des premières fois, en cette année 2020, que le ministère de la Culture a institué Année de la bande dessinée. Catherine Meurice, première autrice de bande dessinée élue à l'Académie des Beaux-Arts, Emmanuel Guibert, premier auteur à être exposé dans cet institut de France. Et cette semaine, c'est le prestigieux Collège de France qui ouvre ses portes pour la première fois à la bande dessinée. Nous allons en parler avec deux savants. Le premier est théologien, exégète, philologue, grand spécialiste de la Bible et administrateur du Collège de France. Bonjour Thomas Romer.
Bonjour.
Et le second est philosophe, historien et théoricien de la bande dessinée et également scénariste. Et il prononcera mercredi prochain, le 7 octobre à 19h, la conférence inaugurale de ce cycle de rencontres au Collège de France. Bonjour Benoît Peters.
Bonjour.
Mais avant de parler de ce cycle de rencontres, nous voulions commencer cette émission par un hommage à un grand nom de la bande dessinée décédé cette semaine. Je parle bien sûr de l'auteur argentin Kino, le créateur de Mafalda.
Je ne connais pas le Japon, mais je pense que si je vais en Japon et je comprends la langue, je trouve que les mêmes choses qui font rire en Argentine, ils font rire au Japon. Je suis convaincu de ça.
Vous pensez qu'en fait l'humour pourrait être un trait commun, un trait d'union entre les différents pays?
Oui, oui, c'est comme la musique.
Benoît Peters, la conférence que vous allez prononcer au Collège de France s'appelle « Génie de la bande dessinée ». Un génie qui, on va le voir, sans doute peut avoir plusieurs formes dans le genre minimaliste, quatre cases, quelques traits de crayon. Est-ce qu'on peut dire que Kino a touché, a compris quelque chose de ce génie de la bande dessinée?
Oui, d'abord par la force du personnage de Mafalda, un personnage féminin, une petite fille très caractérisée. J'ai entendu Pénélope Bagieu la comparer à une Greta Thunberg de l'époque. C'est une série qui ruse avec la censure dans des années difficiles en Argentine. Et puis, c'est un des volets du génie de la bande dessinée qui s'exprime à travers Kino, c'est ce génie du strip quotidien. On peut penser évidemment à d'autres grandes séries comme les Peanuts de Charles Schulz ou celle de Bill Watterson, Calvin et Hobbes. Ce sont des rendez-vous quotidiens. Les lecteurs vivent avec ces personnages les accompagnent, et finalement ce rendez-vous de trois ou quatre cases, ces petits gags, représentent une forme de familiarité tout à fait unique et exceptionnelle. Il y a un art du strip qui peut-être s'est un peu perdu au moment où les grands journaux ont cessé de s'attacher des dessinateurs ou des dessinatrices.
Est-ce que vous connaissez Mafalda, Thomas?
Oui, bien sûr. J'ai appris l'espagnol avec Mafalda, donc j'ai beaucoup aimé cette. Et comme vous dites, c'est très facile parce que c'est toujours le strip, quatre cases qui, voilà, mettent en question certaines habitudes. Et puis, il y a quand même une sorte de féminisme avant l'heure, donc dans Mafalda. J'ai beaucoup aimé, j'aime toujours.
Alors, à part Mafalda, pour que les auteurs du rayon BD vous connaissent un peu, quel lecteur de bande dessinée êtes-vous?
Écoutez, je suis pas un très très grand lecteur. J'ai quand même un peu grandi avec certains. Une figure, donc vous avez déjà mentionné le Peanuts, donc il faut que je peut-être précise que j'ai grandi en Allemagne où il y avait d'autres types de bandes dessinées, on appelait ça des cahiers, et quand j'étais petit, 12-13 ans, on les échangeait comme ça, il y avait le Mickey, il y avait Lucky Luke et d'autres, et puis c'était un peu ce qu'on avait comme lecture quotidien, on lisait ça quand on était dans le car pour aller à l'école, etc., et on échangeait entre copains. Et donc mes lectures préférées, c'était c'était en effet le Peanuts que j'adorais. Et puis évidemment, Astérix, et là c'est intéressant par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, parce qu'on connaissait pas toutes les allusions à la politique française. Mais en même temps, on s'amusait, on aimait beaucoup Astérix, bien que la moitié, je pense, nous échappait. Donc ça montre aussi qu'il y a plusieurs lectures évidemment possibles de ces bandes dessinées.
Et est-ce que dans les choses plus qu'on dit aujourd'hui plus adultes ou plus
contemporaines? Oui, après j'ai eu ma phase un peu psychédélique. Alors Robert Crumb, j'aimais beaucoup Mr. Natural, c'était vraiment quelque chose que j'adorais, Fritz the Cat. Et puis après, j'étais un peu déçu quand il a fait son Ancien Testament, la Genèse plutôt, parce que là, il est devenu, je ne sais pas ce que vous en pensez, très très sage, me semble-t-il, où il a simplement repris un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, les stéréotypes de la mise en page et puis aussi de la représentation de Dieu comme barbu. Je m'attendais à des choses un peu plus subversives, mais il était très très sage. Je ne sais pas très bien pourquoi.
Une lecture très littérale et très littérale, très
peu interprétative. Et puis aussi, en reprenant en effet les codes de l'histoire de l'art, hein, donc pour les personnages, etc.
Ouais. Bruno Peters, on sent que ça vous intéresse toujours d'entendre des lecteurs de bande dessinée parler de leur rapport à la bande dessinée, que ça parte de l'enfance ou que ça arrive à des choses plus contemporaines. Qu'est-ce que vous aimeriez, par exemple, faire découvrir à Thomas Römer si vous deviez aujourd'hui lui conseiller des bandes dessinées, sachant qu'il a lu La Genèse de Crumb, qu'il a sans doute lu les quelques bandes dessinées qui sur Gilgamesh?
Oui, mais je suis déjà très heureux de voir la diversité de sa culture, de Lucky Luke à Crumb. Et je crois que nous avons tous grandi avec certaines bandes dessinées qui sont nos références premières. Exactement. Aussi les Peanuts, ouais. pour vous, pour moi plutôt Tintin ou Spirou ou Blake et Mortimer. Et peu à peu, nous élargissons notre regard, notre culture, nous découvrons à quel point la bande dessinée est ancienne. Ça c'est très important, on a cru qu'elle était née à la fin du 19e siècle, elle est née au début du 20e siècle. Nous voyons combien elle est diverse, c'est-à-dire qu'elle ne s'adresse pas uniquement aux enfants, comme on l'a cru longtemps, mais aussi aux adultes. Elle peut être très littéraire, elle peut être très plastique. Elle a toutes sortes de formes et un génie propre. Et c'est cela que je continue à découvrir et je continue à m'émerveiller régulièrement. Par exemple, beaucoup de gens en France ont un regard un peu généraliste sur les mangas. Et voient les mangas comme une sorte de grand bloc, souvent confondu d'ailleurs avec ce qu'ils ont vu à la télévision en matière d'animé. Or, quand on entre dans cet univers des mangas, on le découvre tout aussi divers que la bande dessinée anglo-saxonne ou que la bande dessinée francophone. Et j'essaierai, dans la conférence la semaine prochaine, à travers des exemples très divers, et on a un temps limité, de donner idée de quelques-unes des directions que la bande dessinée a pu prendre et prend aujourd'hui, où on s'apercevra d'ailleurs de très étranges, mais très frappantes convergences entre la bande dessinée dite primitive, celle qui s'est exprimée dans la presse du 19e siècle, un peu partout, et la bande dessinée la plus contemporaine, celle du 21e siècle. Il y a une liberté de forme qui s'était peut-être perdue un petit peu entre-temps et qu'on est en train de retrouver.
On va parler de cette évolution de la bande dessinée, de cette amnésie cyclique que vous pointez souvent, Benoît Peters, mais pour parler un peu de votre rapport à tous les deux à la bande dessinée. Il faut dire aussi que vous avez des expériences d'auteur de bande dessinée. Alors Thomas Römer, on commence par vous. Là, elle est plus mince.
Elle est très mince.
Vous avez publié tout de même une bande dessinée. C'était en 2018 dans la petite BDTech des Savoirs des éditions du Lombard. C'était sur votre spécialité puisque ça s'appelait Naissance de la Bible et c'était avec Léonie Bischoff.
Exact.
Est-ce que quand même en travaillant avec une illustratrice, une auteure de bande dessinée puisqu'elle est auteure complète,
tout à fait,
vous avez compris certaines choses de ce génie de la bande dessinée?
Oui, je crois que oui. Donc, ça fait partie de la série qui s'appelle La BDTech du Savoir. C'est une sorte de que sais-je en bande dessinée. Et au début, quand j'étais abordé par David van der Meulen, qui était directeur de cette série, j'étais un peu réticent. Parce que je me dis, mais comment, j'ai aucune idée comment fonctionne une bande dessinée. Et puis, la rencontre avec, justement, Léonie, j'ai dû écrire un script. Donc, du coup, j'ai dû construire une histoire. Alors, évidemment, on construit pas tellement l'histoire, c'était peut-être pas très intelligent, mais je me suis dit, on va faire une sorte de dialogue de deux personnages qui traversent un peu les époques et puis qui s'arrêtent à des moments importants pour comprendre la naissance de la Bible. Et puis après, il y avait quand même toujours des petites mises en scène de telle ou telle époque, quand les Juifs sont en exil, comment ils réfléchissent. Et donc, c'était peut-être pas, comme vous dites, une bande dessinée traditionnel, mais il fallait quand même entrer. J'aime bien vulgariser les résultats de la recherche, mais quand on le fait par une bande dessinée, c'est encore autre chose que lorsqu'on écrit juste un petit livre ou un petit texte.
Et alors, vous, Benoît Peters, vous avez une activité de scénariste beaucoup plus importante. On connaît bien sûr Les Cités Obscures que vous avez fait avec François Skuyten, mais il y a aussi, vous avez travaillé avec Frédéric Boilet, avec Aurélia Horita. Est-ce que, j'imagine que oui, mais la pratique que vous avez de la bande dessinée comme auteur vous a aidé, vous a fait évoluer dans votre conception théorique du médium?
Oui, c'est peut-être la petite originalité que je peux revendiquer, c'est d'avoir approché la bande dessinée d'abord à partir de la pratique. Bien sûr, j'étais lecteur, j'avais travaillé avec Roland Barthes sur Les Bijoux de la Castafiore d'Hergé, à une époque où la bibliographie sur Hergé était très réduite, aujourd'hui elle est immense, mais c'est surtout en travaillant avec les dessinateurs, en les regardant faire, en observant vraiment les problèmes qui se posaient à nous, en organisant une séquence, une page, en faisant que quelque chose fonctionne ou fonctionne moins bien, que les effets de continuité dans le récit, les ellipses, jusqu'où peut-on aller. C'est là que je me suis dit que peut-être on pouvait reprendre la réflexion sur la bande dessinée sur un mode qui ne soit pas purement universitaire. Il y avait, dans les années où j'ai commencé à écrire, où j'ai fait mes études, une sémiologie dure qui était une sémiologie qui partait de la linguistique. Et on cherchait finalement à exporter les modèles langagiers à l'image. Et ça ne marchait pas très bien.
Le carré sémotique, c'était partout, non?
Oui.
Le fameux carré.
Et donc, à ce moment-là, on essayait de décomposer la bande dessinée en petites unités qui étaient très abstraites, ou à classer les bulles par forme, plus ou moins carré, rectangulaire, ovale, toute chose qui demeure extrêmement superficielle. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qui fait la bande dessinée? Eh bien, d'abord, la case, qui n'est pas un dessin comme les autres, puisque c'est une image qui est toujours encadrée par d'autres images. Le strip, dont on a dit un mot à propos de Mafalda. La planche, qui est une conquête et qui pendant longtemps a été une expression spécifique de la bande dessinée, puisque dans les grands journaux américains, des séries comme Little Nemo, c'était des pages
c'est
et
ça.
Une réflexion.
Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, en
oui.
fait.
Oui, c'est et ça. Puis, ouais. Et puis le récit, avec toutes les complexités qu'il peut poser. Et aujourd'hui, de nouveaux territoires, comme la couleur directe. Longtemps, la couleur a été un peu asservie au dessin. Ou, ce que vous évoquiez avec la BD Tech des Savoirs, mais il y a beaucoup d'autres collections aujourd'hui, les territoires de la non-fiction.
C'est ça.
On parle de roman graphique, hein, c'est un des mots à la mode, mais quelquefois on oublie qu'une des richesses de la bande dessinée d'aujourd'hui, c'est d'aborder absolument tous les sujets, hors du didactisme qu'il y avait à une époque, parce qu'il y avait quelque chose d'un petit peu agaçant à une époque, on se disait, pour rendre, disons, l'histoire de la chimie attrayante, voilà. On va faire l'histoire de la chimie, mais on ne faisait ni de la chimie ni de la bande dessinée, si j'ose dire. Alors qu'aujourd'hui, je crois que dans ces rencontres, ces travaux de reportage, ces travaux historiques, toutes choses qui ont peut-être été initiées par Maus de Art Spiegelman, où il traite d'un sujet difficile entre tous à travers le langage de la bande dessinée, à travers même une bande dessinée d'apparence animalière, on se rend compte qu'il n'y a pas de territoire inaccessible à la bande dessinée.
Alors aujourd'hui, la bande dessinée, on l'a dit, entre au Collège de France. Thomas Romer, peut-être en quelques mots pour nos auditeurs qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez nous présenter cette institution qu'est le Collège de France, vraiment assez rapidement?
Alors le Collège de France réunit une cinquantaine de professeurs qui enseignent un peu tout. Donc la devise du Collège de France, c'est Dos et Omnia. Donc tout peut s'enseigner et la particularité, c'est qu'on peut décider librement quels sont en effet les champs d'enseignement. Donc si quelqu'un part à la retraite, on n'a pas besoin de refaire la même chose. Donc les chaires, en fait, sont liées aux personnages qu'on accueille. Et donc, évidemment, il y a les grandes traditions, la chimie, la biologie, la sérologie. Mais après, on peut, en effet, inventer ce qu'on veut. Et puis, pour encore augmenter cette liberté, on a la possibilité, justement, d'inviter des personnes pour une année qui sont, en effet, peut-être pas faites pour enseigner pendant 20 ou 30 ans. Mais l'idée du Collège de France, c'est un enseignement libre, lié, en effet, toujours à la recherche du professeur. Donc, c'est pas des cours d'introduction, c'est vraiment le savoir en train de se faire.
Alors, cette entrée de la bande dessinée, d'après les documents qu'on a pu lire au Collège de France, se fait sous le patronage de Guillaume Budet. Guillaume Budet, c'est
tout à fait.
Le fondateur du Collège de France, qui ne s'appelait pas comme ça, sous le règne de François Ier.
C'était le Collège Royal à l'époque.
Et sous le patronage bienveillant de Guillaume Budet, écrivez-vous, et plus malicieux d'Alfred Le Pingouin. Benoît Peters, est-ce que vous pouvez nous rappeler, vous, qui est Alfred Le Pingouin?
Alfred Le Pingouin est une des premières grandes vedettes de la bande dessinée française. C'est la création d'Alain Saint-Augan, Zig et Puce. Mais à côté de ces deux garçon aventureux, le pingouin est devenu une mascotte extraordinaire, célébrée par toutes sortes de personnages, déclinée sur tous les supports. Longtemps d'ailleurs, Alfred a donné son nom au prix qui était décerné à Angoulême, qui sont aujourd'hui les Fauves.
Absolument, et d'ailleurs, on peut signaler à cette occasion que vous aviez vous-même reçu l'Alfred du meilleur album en 1985 avec François Skuyten pour La fièvre d'Urbicande, et on va bientôt avoir, pour la première fois, ce sera à la fin du mois d'octobre, une version colorisée, puisqu'à l'origine vous aviez voulu faire une version colorisée, mais comme ça paraissait dans À suivre, qui était en noir et blanc pour l'essentiel.
Voilà. Le noir et blanc s'était imposé à nous pour des raisons éditoriales, parce que l'histoire était longue et qu'à l'époque, qui lisait roman en bande dessinée disait noir et blanc. Et aujourd'hui, nous avons revisité l'histoire, une histoire qui nous a semblé, en plus pendant l'épidémie que nous traversons, avoir des résonances assez étranges et assez fortes. C'est peut-être la force des récits métaphoriques que de pouvoir changer de sens suivant les périodes.
La fièvre d'Urbicande, donc le deuxième volet de vos cités obscures, je ne sais pas s'il faut dire d'ailleurs volet ou épisode, enfin
oui,
le deuxième
cas,
livre.
On peut les lire dans n'importe quel ordre, ce qui était une volonté pour nous, et je crois que c'est une volonté aussi pour beaucoup d'auteurs aujourd'hui, de s'affranchir peut-être de la série au sens classique et d'avoir des œuvres qui proposent une lecture complète. Je crois que ça, c'est vraiment un des acquis du récit graphique. Mais n'oublions pas que des séries comme Tintin, déjà, proposaient des volumes qu'il n'était pas nécessaire de lire dans l'ordre où ils avaient été créés. Chaque histoire était autonome.
Thomas Romer, vous êtes l'homme des premières fois au Collège de France, puisque c'est avec vous que le mot « Bible » est apparu pour la première fois dans l'intitulé d'un programme de recherche. Vous disiez « chaque professeur arrive avec son intitulé ».
C'est ça,
avec
donc le on choisit en fait l'intitulé de sa chaire, exactement.
Donc vous, c'est « milieu biblique », et voilà. C'est la première fois que le mot « Bible » apparaissait.
Tout à fait. Disons, il y avait évidemment des grands prédécesseurs comme Ernest Renan qui faisait la Bible, mais sa chaire s'appelait, je crois, « Antiquité sémitique ». Parce que, je sais pas, le mot Bible soit faisait peur ou était pas considéré comme quelque chose à enseigner. Et c'est justement ce que je disais tout à l'heure, la spécificité du collège, qu'on peut vraiment tout enseigner, donc de la Bible jusqu'à la bande dessinée, donc tout est possible.
Alors, vous êtes aussi le premier étranger à occuper le poste d'administrateur du Collège de France, puisque vous êtes de nationalité allemande et suisse.
Suisse, oui.
Et alors, maintenant donc, ce qui nous occupe aujourd'hui, la bande dessinée, passe les portes de cette vénérable institution. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter le programme? Ça va être donc la conférence inaugurale de Benoît Peters.
Qui va avoir lieu le 7 octobre. Et puis ensuite, vous avez le programme de vous. Je sais pas toutes les dates. Donc on a en effet trois auteurs que vous avez déjà mentionnés en partie. Emmanuel Guibert,
Catherine
Meurice, et puis
Jean-Marc
Rochette. Et malheureusement, Monsieur Weir, des États-Unis, pourra pas venir, vu la situation actuelle, donc.
La rencontre avec Chris Weir.
Oui, nous avions rêvé, en fait, d'ouvrir aux États-Unis et au Japon Chris Weir et Naoki Urasawa, qui aurait donné une vision un peu plus large et complète, mais assez rapidement, pour Urasawa, c'était impossible. Chris Weir, nous l'avons espéré plus longtemps, mais depuis que le festival d'Angoulême en janvier prochain est lui-même menacé ou prendra une forme différente, il a fallu inventer autre chose. Et donc nous donnerons idée, je crois, du rayonnement de la bande dessinée francophone d'aujourd'hui,
ça,
à travers trois générations d'auteurs, parce que Jean-Marc Rochette appartient un peu à la même génération que moi. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître il y a longtemps dans À suivre avec le transpersonnage, qui est une bande dessinée qui a été redécouverte grâce au film de Bong Joon-ho.
Avec Jacques Loeb.
Emmanuel Guibert représente la génération dite de l'association, de la nouvelle bande dessinée. C'est un de ceux qui, je crois, a vraiment fait mûrir et grandir la bande dessinée. Et puis avec Catherine Meurice, nous avons non seulement cette féminisation si nécessaire, qui est arrivée un peu tardivement dans la bande dessinée, mais une trajectoire exceptionnelle, puisque c'est une ancienne de Charlie Hebdo, et en même temps, c'est une des dessinatrices les plus sensibles à la littérature et aux arts qu'il y ait aujourd'hui, et c'est donc aussi tout à fait extraordinaire de la voir entrer à l'Académie des Beaux-Arts et montrer donc que la bande dessinée, qui a toujours été un petit peu entre le pôle littéraire et le pôle plastique, peut réussir. Et c'était déjà le cas avec Töpffer, l'inventeur suisse de la bande dessinée. C'est cette synthèse qui fait vraiment la bande dessinée, qui fait qu'elle n'est ni purement plastique, ni purement narrative, mais qu'elle propose des liens sans cesse réinventés entre ces deux domaines. Un art mixte, disait Töpffer.
Alors, ce qu'on peut encore préciser, que les autres interventions, ce sera sous forme, en fait, d'un dialogue avec un ou une professeure du Collège de France. Donc, on voulait aussi montrer un peu que ce n'est pas simplement des gens qui viennent parler de la bande dessinée, mais qui peuvent, en effet, dialoguer avec l'histoire des religions, antiquité grecque, qu'est-ce qu'on a, Patrick Boucheron pour l'histoire moderne. Et puis, le troisième, ce sera...
Bénédicte Savoir.
Voilà, Bénédicte Savoir, qui, est spécialiste de l'histoire des œuvres d'art au 18e jusqu'au 19e siècle.
Et pour trouver des professeurs du Collège de France qui voulaient parler de bande dessinée,
Je devais refuser certaines candidatures parce qu'on n'avait pas assez d'invités. Donc il y avait un enthousiasme. Vraiment, ce n'est pas nous qui avons eu l'idée. C'était venu par le ministère de la Culture, mais tout de suite, il y avait vraiment une adhésion générale à ce projet. Et ça, c'est, je trouve, une très, très bonne chose. Et rien n'empêche qu'on fera venir Chris Ware dans un autre contexte, puisqu'on a les grandes conférences où on peut inviter qui on veut. Donc, ce n'est que partie remise, je dirais.
Chris Ware ou Émile Ferris, par exemple.
Bien sûr.
Puisque votre conférence, Benoît Peters, s'appelle « Génie de la bande dessinée » de Töpffer, que vous avez évoqué, à... Émile Ferris, un mot sur Émile Ferris. Alors c'est une femme, évidemment, ça compte sans doute, puisque vous avez...
Ce qui est un des renouvellements remarquables du roman graphique ces dernières années, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi dans la culture de la bande dessinée et donc qui l'aborde avec une étonnante liberté. Dans son album primé à Angoulême, moi ce que j'aime c'est les monstres. C'est à travers le journal, les fantasmes d'une jeune fille, qu'on voit des styles graphiques et des manières d'intégrer le texte et l'image tout à fait libres, tout à fait neuves, se mettre en place. Bien sûr, j'aurais pu dire de Rodolphe Töpffer à Chris Ware ou de Rodolphe Töpffer à Urasawa, mais c'était un nom qui m'a semblé emblématique et témoignait d'une des ouvertures récentes de la bande dessinée. Il y a une richesse extraordinaire dans le domaine et on ne fera évidemment que l'effleurer à travers ce cycle, mais peut-être donnera-t-on envie à des gens qui la considéraient un peu de loin, avec un peu de peut-être de dédain, peut-être donnera-t-on envie d'aller plus loin, d'aller chercher d'autres œuvres, de sentir qu'elles peuvent être lues et regardées véritablement.
Mais en tout cas, vous allez évoquer encore Rodolphe Töpffer, qui est quelqu'un que vous défendez, que vous aimez, puisque c'est vous, avec Thierry Grunstein, qui avez peu à peu, je peux dire, imposé, enfin, ou proposé d'abord Rodolphe Töpffer comme créateur de la bande dessinée, et c'est aujourd'hui à peu près reconnu que c'est Rodolphe Töpffer.
Alors, Wolinski et Spiegelman, avant nous, avaient dit tout le talent de Töpffer. Donc je crois qu'il est vraiment reconnu, bien plus que le Yellow Kid d'Aotko à la fin du 19e. Il est vraiment reconnu comme le père de la bande dessinée. Non seulement son premier grand auteur, mais le premier à avoir conscience de fonder un genre, c'est ce qui est très important, et le premier théoricien, puisque Töpffer était écrivain, critique d'art et, on peut le dire, penseur à travers un texte fondamental qui mériterait d'être étudié de très très près, l'essai de physiognomonie. Il a vraiment pensé ce que pouvait être l'esthétique de ce nouveau genre, en partant du dessin et des métamorphoses du dessin pour penser une nouvelle façon de raconter. Töpffer est un génie, et le premier critique de bande dessinée, qui a même été critique avant la publication de Töpffer, c'est Goethe, puisque c'est Goethe qui, lisant les manuscrits de Töpffer, l'a décidé à publier. Donc là, on a vraiment quelque chose d'une origine. Bon, je ne veux pas à tout prix donner à la bande dessinée des lettres de noblesse, elle les a de multiples façons, mais en tout cas, c'est beau de penser que cette origine s'est faite sous le patronage de Goethe. Vous voyez qu'on retrouve et la Suisse et l'Allemagne. Oui, c'est fait pour vous faire plaisir.
Moi, j'avais aussi encore une expérience un peu allemande, mais je ne sais pas si cet auteur a jamais été traduit, Wilhelm Busch. Je ne sais pas, Max und Moritz.
Mais il n'a pas le même poids dans la tradition
francophone. Alors, pour la disons, pour la culture allemande, mais il y a quand même une idée très, très, comment dire, une certaine idée de l'éducation. Donc, les enfants qui font des choses qui ne sont pas bien, ils sont punis, on leur coupe les doigts, etc. Mais on lisait ça. Je ne sais pas très bien comment, maintenant, j'essaie de comprendre comment je l'ai reçu, mais c'était un peu assez punitif comme ça.
Saviez-vous que Freud laissait traîner un album de Max und Moritz dans la salle d'attente?
Ah non, ça je ne savais pas.
Avant les séances d'analyse. Donc,
c'était vraiment très très répandu.
Max und Moritz, c'est un peu les Katzenjammer Kids.
Oui, parce que c'est effrayant en même temps, c'est transgressif.
Oui, c'est un peu transgressif, mais en même temps, si on n'obéit pas aux parents, voilà, on se fait couper les doigts, c'est très curieux. C'est très...
Alors, en tout cas, je voulais vous demander, Thomas Romer, puisque dans la présentation que vous faites de cette entrée de la bande dessinée au Collège de France, vous évoquez tout de même les ancêtres supposés ou qu'on aime mettre en avant de la bande dessinée, que ça aille de la peinture rupestre à la Biblia Pauperum. Mm-hmm. On peut penser aussi, on évoque souvent la tapisserie de Bayeux, ouais, ouais. Encore plus ancienne, ou la colonne Vendôme, plus proche de nous. L'idée d'avoir aujourd'hui une origine un peu établie, est-ce que c'est quelque chose d'important scientifiquement pour une discipline ? Est-ce que c'est important de se mettre d'accord sur les fondements, les débuts ?
Je pense que c'est important d'avoir un petit canon des origines, mais après, évidemment, il n'y a jamais d'origine absolue. Donc, on trouve toujours des prédécesseurs. Bah, évidemment, c'est pas les bandes dessinées, mais dans le taxi, j'ai encore pensé, on a ces reliefs assyriens qui datent donc du 7e siècle avant l'ère chrétienne, où on a en effet vraiment des histoires de guerre souvent, et il y a vraiment, il n'y a pas des cases, mais il y a des scènes qui se suivent, et il y a le texte. Hein, les textes qui entrent même dans l'image. Et quelque part, ça fait un peu bande dessinée. Et ce qui est intéressant, on peut, évidemment, à l'époque, beaucoup de gens ne savaient pas lire et écrire. Donc, si vous suivez simplement les images, vous pouvez comprendre l'histoire. C'est-à-dire, les Assyriens sont les plus forts. Mais le texte vous donne encore d'autres informations, des précisions, etc. Mais vous avez déjà, au 7e siècle avant l'ère chrétienne, c'est juste la position entre le texte et l'image. Donc, on peut aller de nouveau à Londres, au British Museum, il faut aller voir. C'est aussi, me semble-t-il, une des origines lointaines de la bande dessinée.
Ça, donc, c'est dans l'Assyrie. Dans le bassin biblique dans lequel vous évoluez par vos recherches, en tout cas la Bible hébraïque, ce qu'on appelle, c'est une civilisation, une religion qui est aniconique,
à l'origine, pas d'image. Disons, à l'origine non, mais après, quand le judaïsme se met en place, il y a cet interdit d'image qui concerne en fait à l'origine que des images divines, mais que le judaïsme va comprendre comme une interdiction plus générale. En même temps, on a quand même des synagogues comme Doura Europos en Syrie, où on va au 3e, 4e siècle, on a en fait des scènes bibliques mises en récit aussi d'une certaine manière. Donc on a toujours aussi, je crois, cette nécessité de mettre les choses en image. Et après, plus tard, la Biblia Pauperum que vous avez en effet mentionné.
C'est le 14e
siècle. Voilà, donc là, c'était parce que là aussi, très peu de gens savaient lire et écrire. On pense aujourd'hui, c'est plutôt pour les clercs, pas tellement pour le peuple, pour les clercs, pour leur permettre en fait de prêcher par rapport à un texte biblique qui leur échappe d'une certaine manière. Et là, on a en effet des images, un texte, mais souvent... pour comprendre les images, c'est toujours l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On peut dire comment le Nouveau Testament accomplit ou contraste avec l'Ancien Testament. Et de nouveau, vous n'avez pas vraiment besoin de lire. Évidemment, si vous lisez, vous avez plus d'infos. Et moi, je me souviens aussi que j'avais en fait des bandes dessinées avant que je savais vraiment bien lire. Et puis les images, ça fait aussi déjà une histoire.
Alors, comme vous évoquez le Nouveau Testament, je peux annoncer que l'émission de la semaine prochaine sera consacrée au livre Jésus que Serge Bloch et Frédéric Boyer publient chez Bayard. Jésus, une sorte de poème graphique illustré par Serge Bloch avec Frédéric Boyer que vous connaissez bien. Vous avez travaillé ensemble à des traductions de la Bible. Merci en tout cas à tous les deux. La bande dessinée au Collège de France, ça commence donc ce mercredi 7 octobre à 19h avec vous, Benoît Peters. Une conférence qui sera ouverte au public dans la mesure
des places disponibles,
disponibles avec les jauges qui nous sont imposées. Mais une conférence qui sera, comme les rencontres suivantes, retransmise en direct sur le site du Collège de France. On mettra les liens qu'il faut sur la page du Rayon BD sur le site de France Culture, franceculture.fr. Le Rayon BD était, comme chaque semaine, préparé par Pascaline Bonnet, réalisé par Alexandre Manzanares. Et c'est Théo Goma qui était avec nous aujourd'hui à la technique. Dans quelques instants, vous retrouvez Charles Danzig pour Personnage en personne.
Dein Gesicht, siehst In seinen Armen das Kind.